au 19e siècle, et voir donc région du monde par région du monde, comment s'est traduit l'élan missionnaire. D'abord, on va commencer par l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est était une région qui était marquée par deux grandes religions, le bouddhisme d'une part et l'islam d'autre part. Et quand les missionnaires se sont trouvés confrontés avec des religions établies de ce type-là, des religions élaborées, n'est-ce pas? Ils ont eu beaucoup plus de difficultés que dans des pays comme l'Afrique qui étaient essentiellement marqués par l'animisme et qui ont été beaucoup plus perméables à la pénétration de l'Évangile. En Asie du Sud-Est, les Américains, dès les années 1831, se sont attaqués à la Thaïlande avec beaucoup de difficultés. En 1819, une autre tentative a eu lieu, enfin avait eu lieu précédemment, donc c'était avant 1831, en Malaisie, et notamment à Singapour, pour ainsi dire, sans aucun résultat. Ça a été l'échec quasi total. Par contre, à Bornéo, et donc le nord de l'île, il s'appelle le Sarawak, le Raja, c'est-à-dire le souverain de l'État, s'est converti au christianisme dès 1862. Et dans toute l'histoire des missions, depuis les origines jusqu'à nos jours, lorsque un potentat se convertit, on est à peu près sûr d'avoir l'essentiel de la population qui va suivre. Ces régions étaient marquées par des régimes autocratiques. Le souverain était un souverain absolu. Et par esprit d'obéissance, d'imitation, par flatterie, par désir d'être. Tout simplement parce que si le souverain donnait le feu vert, c'est que c'était bien, l'essentiel de la population après ça suivait. Donc, il y a eu à Bornéo une ouverture très grande pour l'évangile grâce à la conversion de ce Raja, tandis que dans les autres pays de la même région, on se heurtait à de très grandes difficultés. Le Raja lui-même fait appel aux missionnaires et c'est le début d'une évangélisation très importante des îles de la Sonde, comme on les appelait à cette époque-là, c'est-à-dire l'Indonésie actuelle. Des missions hollandaises sont venues dans cette région, puisque toute cette région était passée sous la domination coloniale hollandaise. Les Hollandais se sont taillés un empire colonial dans cette région-là. Et il y a eu au Célèbes, c'est-à-dire dans la région est, dans les îles les plus orientales de l'archipel de l'Indonésie, un véritable réveil à la fin du siècle. Notamment dans la population qui était étrangère. Il y avait une population étrangère dans ces îles, et c'est elle qui a été essentiellement touchée par le réveil. Par contre, il y a eu une opposition des indigènes, proprement dit, et très vite, n'est-ce pas, les chrétiens locaux qui sont convertis dans ces régions-là ont eu un désir d'indépendance et on verra que ce désir d'indépendance se traduira par des églises nationales, notamment au début du siècle suivant, c'est-à-dire de notre siècle. Java, par contre, l'île de Java, qui était l'île la plus peuplée de l'archipel de la Sonde, était essentiellement musulmane, si bien que là, par contre, les missionnaires ont eu des grandes difficultés. L'île a été évangélisée dès 1811 par un piétiste allemand, dans le sillage de Zinzendorf, qui s'appelait MD, comment est-ce qu'on dit? EMDE, M2, oui. Il s'est marié d'ailleurs lui-même avec une javanaise, et en 1843, enfin, il a eu la joie de voir 35 musulmans se convertir. C'était au bout de plusieurs années, de nombreuses années, en quelque sorte, de travail, après plusieurs dizaines d'années de travail, c'était enfin les premiers fruits de son travail. Il a fait en sorte que les nouveaux convertis ne perdent pas le caractère javanais. Et ce missionnaire avait déjà la vision de ce qu'on appellera plus tard l'inculturation, c'est-à-dire la nécessité de couler en quelque sorte le christianisme un peu dans les cultures locales, sans, à condition de ne rien altérer évidemment de ce qui était la nature de l'évangile lui-même. Ça a été le début donc d'une action importante en Indonésie, dans la mesure où dans ces régions-là, l'islam était moins fanatique qu'ailleurs dans le monde. Si bien que l'islam a été un frein moins qu'ailleurs dans cette région-là. En Birmanie, la situation était différente. La religion dominante était le bouddhisme. Et l'apôtre de la Birmanie, évidemment, c'est quelqu'un que tout le monde connaît, le grand homme de Dieu que fut Adoniram Judson. Son nom est absolument indissociable de l'histoire des missions au XIXe siècle, au même titre que William Carey ou de ses grands, Livingstone, Hudson Taylor, etc. Adoniram Judson, qui était né en 1888 et qui est mort en 1850, s'est converti très jeune et a senti très jeune aussi l'appel de Dieu. Et il a exprimé le désir de devenir missionnaire. En 1812, après avoir terminé l'école biblique, il a posé sa candidature à la Société missionnaire de Londres, qui avait donc soutenu des gens comme William Carey, etc., pour se rendre dans l'Asie du Sud-Est. Son but, c'était justement l'Asie du Sud-Est, qui à cette époque-là faisait partie de l'Empire des Indes. L'Empire des Indes, qui était en train d'être constitué à cette période-là par la couronne britannique, comprenait plusieurs des États qui sont aujourd'hui indépendants, le Pakistan, l'Inde actuelle, l'île de Ceylan, au sud de la péninsule, le Bangladesh, ce qui est aujourd'hui le Bangladesh, et la Birmanie. La Birmanie, tout ça, était aussi inclus dans l'Empire des Indes. Par conséquent, c'était sur les brisés, en quelque sorte, de William Carey que Adoniram Judson se proposait de se rendre. Et il a donc été envoyé dès 1812 par la mission de Londres en Birmanie, avec d'autres jeunes gens qui étaient sortis aussi de l'école biblique en même temps que lui, un certain Rice, Watt, Neville et Hall, H-A-2-L, qui ont été envoyés avec lui en Birmanie. Adoniram Judson était un homme qui était d'origine congrégationaliste, c'est-à-dire qui était un adepte du baptême des enfants. Et c'est pendant le voyage, le long voyage par mer, jusqu'en Birmanie, qui durait des semaines à cette époque-là, n'est-ce pas, que s'entretenant avec Rice, il a été convaincu du baptême des adultes et il a décidé donc, dès qu'il est arrivé à Calcutta, d'être baptisé. Il a été baptisé à Calcutta, il a atterri, et ce faisant, il s'est trouvé un peu en porte-à-faux avec son église, forcément, et notamment Rice, qui l'avait amené à se faire baptiser, est retourné en Amérique pour solliciter l'appui des baptistes pour la mission, puisque maintenant, en quelque sorte, Adoniram Judson était plutôt dans la foulée des baptistes. On peut dire que M. et Mme Judson ont été les deux premiers missionnaires baptistes américains de toute l'histoire. La Compagnie des Indes, qui avait déjà fait des ennuis à William Carey, nous avons vu cela quand nous avons étudié l'histoire de William Carey, n'a pas vu d'un bon œil l'arrivée de ces missionnaires, et de la même manière qu'elle s'était opposée à la mission de William Carey, s'est opposée à Adoniram Judson et à ses amis. Et ils ont été finalement chassés du pays sur la pression justement de la Compagnie des Indes. En 1813, donc un an plus tard, ils se sont rendus à Rangoon, en Birmanie, précisément parce qu'ils avaient été chassés de l'Inde. Et l'évangélisation de la Birmanie a été plutôt le fait de circonstances qu'ils n'avaient pas véritablement cherchées. Ils n'avaient pas d'idée très précise. À Rangoon, ils se sont réfugiés déjà chez une mission baptiste anglaise, cette fois-ci, non pas américaine, s'appelait English Baptist Mission, chez un couple de missionnaires qui s'appelait Felix Lang. Et là, pendant 3 ans, Adoniram Judson a appris la langue birmane. Au bout d'ailleurs de cette période-là, il en a même écrit une grammaire. Et c'est au bout de 6 ans de travail, qu'il a été capable de prêcher pour la première fois en birman. Vous, on ne s'improvise pas à cette époque-là, on ne s'improvisait pas missionnaire comme ça. Il y avait tout un temps de préparation, d'études, de la langue, des coutumes, etc., etc. Il lui fera encore 6 autres années, c'est-à-dire 12 ans de travail, pour baptiser son premier converti. Il y a de quoi décourager, évidemment, les plus consacrés. Là, on voit que c'était des pays absolument fermés. Le bouddhisme était une religion qui se considérait comme une religion supérieure et par conséquent qui n'avait pas besoin du christianisme. En 1824, entre 1824 et 1826, la Birmanie va se révolter contre la tutelle anglaise Et une terrible guerre de 2 ans va, une guerre coloniale, de ces guerres coloniales qui vont marquer le 19e siècle, va ravager la Birmanie. Ce sera un temps extrêmement difficile pour la mission. Et Judson, qui est considéré comme un traître, puisqu'il est anglais, n'est-ce pas? Il est donc suspect, va être jeté en prison par les rebelles. Il va être dans des conditions de détention extrêmement difficiles. Et cet emprisonnement pendant quasiment presque toute la durée de la guerre, n'est-ce pas, va être une épreuve terrible pour Adoniram Judson. Une épreuve terrible qui va l'amener à osciller entre la confiance en Dieu et puis des moments de dépression, une véritable introspection morbide. Il se demande si Dieu n'a pas abandonné, s'il n'a pas péché quelque part, pourquoi Dieu l'abandonne-t-il ici dans cette prison, etc. Il doute de sa vocation, il doute de son appel, etc. En 1826, après qu'il soit libéré de sa prison, au moment où la guerre prend fin, il a la douleur de perdre sa femme, puis un fils de 2 ans, ce qui était aussi monnaie courante pour bien des missionnaires à cette période-là. Évidemment, les épreuves s'abattent sur lui les unes après les autres, hein, avec des résultats qui sont quand même extrêmement maigres sur le plan de l'évangélisation, si bien qu'effectivement, après des épreuves de ce type-là, n'importe qui pouvait se demander s'il était véritablement dans le plan de Dieu. Mais après cette période, Adoniram Judson a la conviction qu'il est bien dans le plan de Dieu et il continue son action. Il va remonter vers le nord, vers une peuplade qui n'a pas encore été touchée par l'Évangile, qui s'appelle les Karens. Et là, il va avoir la surprise, une surprise extraordinaire, n'est-ce pas? C'est de rencontrer un peuple qui a une connaissance du Dieu créateur, le Dieu unique, ce qui est tout à fait particulier dans le contexte de l'Inde, enfin des Indes, comme on dit à cette période-là, qui, depuis l'hindouisme jusqu'au bouddhisme, sont marqués par une multitude de dieux, une multitude de divinités. Les Karens en ont aussi des dieux multiples, mais au-delà des dieux, des petits dieux en quelque sorte, il y a le grand Dieu. Et puis, quand ils discutent avec eux, ils se rendent compte que les Karens ont aussi la connaissance d'un certain nombre de récits bibliques, sans jamais avoir eu le livre d'ailleurs, notamment le récit de la chute, du paradis terrestre, de l'Éden, etc., des choses comme ça. Et Adoniram Judson leur demande, enfin, d'où est-ce que vous avez appris ça? Qu'est-ce qui se passe? Cette histoire d'ordinateur, c'est vraiment pénible. Adoniram Judson leur demande, enfin, où est-ce que vous avez appris des choses pareilles? Et les Karens disent, mais nos ancêtres avaient un livre. Un livre dans lequel ces choses étaient écrites. Et ce livre, eh bien, ils l'ont perdu. Et ils l'ont perdu avec aussi, nous avons toujours eu l'espoir qu'un jour, quelqu'un viendrait nous ramener ce livre. Alors Adoniram Judson leur sort la Bible. Et les Karens, mais c'est ça, mais c'est exactement, c'est le livre. C'est le livre qu'avaient nos ancêtres. Et ce livre, bien entendu, Adoniram Judson va se rendre compte qu'il faut qu'il le traduise dans leur langue. Il va donc le traduire en birman. Ce sera un des grands travaux de son ministère. Et donc, de 1845 à 1846, il va travailler à cette traduction de la Bible en birman. Et Adoniram Judson a eu l'intuition en parlant avec les Karens, qu'éventuellement les Karens auraient pu avoir des rapports avec les 10 tribus perdues. Ce que Rabbi Abichaïl, que nous avons rencontré ces derniers temps, a confirmé justement dans les voyages qu'il a effectués, lui, après de notre temps, justement, auprès de ces populations Karens. Populations qui, à l'heure actuelle, d'ailleurs, entre parenthèses, sont terriblement persécutées et qui, parce qu'elles sont persécutées, ont pris les armes. Il y a une terrible guerre actuellement dans cette région du nord de la Birmanie. En 1800, alors ce n'est qu'après 30 ans de ministère qu'Adoniram Judson rentre pour la première fois dans son pays, aux USA. 30 ans sans revoir son pays, je ne sais pas s'il y a beaucoup de missionnaires modernes qui le feraient. Ça montre un petit peu le niveau de consécration de ces gens-là. Entre-temps, il s'était remarié avec une veuve de missionnaire d'ailleurs. Et durant le voyage de retour qu'ils font aux États-Unis, eh bien, sa deuxième femme meurt. Ah, vous voyez, être missionnaire à cette époque-là, il y avait un prix à payer. Il va rester un an aux États-Unis et là, il se remarie troisième fois, donc avec une certaine Émilie Chitak, avec laquelle il retourne en Birmanie pour poursuivre son travail. Et là, il va écrire un dictionnaire anglais-birman. Les difficultés d'Adoniram Judson, c'est courant pour les missionnaires de cette période-là. Et c'était pendant la traversée où il retournait donc aux États-Unis, oui, donc après avoir effectué ce travail, il rentre en congé et puis là, il tombe malade pendant la traversée et il meurt. D'ailleurs, il sera immergé parce qu'il se trouve au milieu de l'océan. Il n'y a pas de tombe d'Adoniram Judson nulle part. Alors voilà, ça c'est un exemple d'une vie de missionnaire. Bon, il est un des plus connus, hein, il est donc un des plus célèbres. Il est un de ceux qui a peut-être le plus souffert aussi, mais les difficultés qui ont été les siennes sont courantes. On partait là-bas, on partait en mission, on avait peu de chances d'en revenir. Et en tout cas, on était sûr de laisser là-bas une partie de sa famille, femme, enfant, etc. Ça, jusque vers un peu après la Première Guerre mondiale, c'était à peu près le tarif. Quelqu'un qui partait en mission devait se dire qu'il faisait pratiquement le sacrifice de sa vie et de la vie des siens. Et ces pays sont jalonnés des tombes de femmes et d'enfants de missionnaires, et parfois de missionnaires eux-mêmes, qui ont donné leur vie de cette manière-là. Ceylan, en fait, oui, Ceylan était à cette période-là non pas occupé par l'Angleterre, mais par les Hollandais. Et Ceylan était aussi un pays essentiellement bouddhiste. Le premier missionnaire qui était arrivé sur l'île était arrivé en 1796. À cette époque, l'île était ravagée par des guerres tribales terribles. Le cannibalisme sévissait, le bon sauvage de Rousseau, n'est-ce pas? Et donc, là aussi, la tâche sera extrêmement difficile. Le cannibalisme, les missionnaires se sont trouvés confrontés avec lui à de nombreuses reprises. C'était par exemple ce qui se passait dans les îles du Pacifique qui ont commencé à être explorées et évangélisées à cette période-là. C'était le cas par exemple de Tahiti, où les Français ont abordé donc dans ces années-là, et notamment un missionnaire de la mission évangélique de Paris, c'est-à-dire la mission officielle du protestantisme français. À Tahiti, ça a été assez étonnant. Le roi de l'île a accepté l'évangile. Bon, le problème, c'était que les populations de l'île avaient une vie particulièrement dissolue. Et la première chose on a offert au missionnaire quand il a débarqué, avant même qu'il ait prêché l'évangile, c'est une femme. C'était la coutume. C'était la coutume. On honorait les étrangers en lui proposant une femme. Bon, bien sûr, le missionnaire a refusé, c'est évident. Et la grande difficulté de l'évangélisation de ces îles, ça a été justement le domaine des mœurs. Amener les indigènes à vivre l'évangile, ça a été quelque chose de difficile. Par contre, dans des îles voisines, les îles Tonga, le roi a résisté à l'évangile. En plus de ça, il était cannibale, ce qui n'était pas le cas à Tahiti. Bon, quand on débarquait dans ces îles-là, valait mieux savoir un petit peu quelles étaient les mœurs des habitants. C'était pas toujours évident, vous allez voir. Et malgré cela, donc, après une résistance à l'Évangile en 1812, lui et son fils, donc le roi et son fils, ont été baptisés. Donc, à nouveau, les îles se sont ouvertes aussi à la prédication de l'Évangile. En 1830, a commencé aussi l'évangélisation des Samoa, des îles Samoa, par un certain John Williams, qui est arrivé dans ces îles avec sept Tahitiens qui étaient convertis. Et il y a eu dans les îles Samoa, les années 1830, un extraordinaire réveil. Les îles Fidji ont été évangélisées entre 1812 et 1835. Les débuts ont été extrêmement difficiles. Et il a fallu attendre 1845 pour que brusquement, sans qu'on sache pourquoi, éclate là un grand réveil. L'opposition cesse et puis soudain le réveil éclate. aux Hawaï. Le premier missionnaire qui est arrivé là-bas se nommait James Michener, c'était un Américain. Et ils ont été accueillis aussi comme à Tahiti en grande pompe, en quelque sorte. Et à leur surprise, il y avait déjà une influence chrétienne. Vous savez, c'est Don Richardson qui a écrit un livre remarquable que je vous conseille, « L'éternité dans leur cœur », où, un petit peu comme pour les Carèmes, avec Adoniram Judson, certains missionnaires ont trouvé que des indigènes de certaines de ces îles avaient une connaissance du Dieu unique. Alors, est-ce que c'était quelque chose qui venait ancestralement? Enfin, pour les habitants des Hawaïs, c'était tout à fait étonnant. Les Karens, ça s'explique par l'appartenance aux 10 tribus, mais pour ce qui est des habitants des Hawaïs, c'était beaucoup plus étrange. Il s'en est suivi un réveil, donc un réveil dans ces îles Hawaïs, là aussi, à la fin du siècle. Il y avait dans les îles Hawaïs 100 000 convertis. Michener a écrit un code de loi, parce que le problème des îles Hawaïs était à peu près le même que des îles Tahiti et autres, n'est-ce pas? C'était la liberté des mœurs, n'est-ce pas? Il a fallu donc donner des lois très précises. Les Nouvelles-Hébrides et les îles Salomon ont été beaucoup plus difficiles à évangéliser, c'était beaucoup plus fermé. Et c'est en 1839 que un certain Williams et deux évangélistes venus des Tonga sont arrivés donc dans ces îles. Ça s'est très mal passé, les insulaires étaient cannibales. Et plusieurs autres évangélistes des origines des Tonga qui sont arrivés là-bas ont été mangés. Et où certains missionnaires ont fini comme ça, mangés par les cannibales. En 1814, des missionnaires sont arrivés également en Nouvelle-Zélande, parmi les Maoris. Et là, l'évangélisation était facile, très facile, trop facile. Et c'est au bout de quelques temps que les missionnaires se sont rendus compte que les populations locales se convertissaient pour des motifs qui n'étaient pas purs, parce qu'ils étaient en guerre les uns contre les autres, et ça c'était souvent le problème de ces pays-là, c'est qu'elles étaient ravagées par des guerres tribales, là aussi confère Rousseau le bon sauvage. Le bon sauvage était non seulement cannibale, mais c'était pareil en Afrique, n'est-ce pas? On se massacrait allègrement, joyeusement, bon... Et il est certain que l'Évangile a apporté beaucoup aussi à ces régions-là, dans ce domaine-là. Mais les Maoris s'étaient rendus compte que les Blancs avaient des armes beaucoup plus performantes que les leurs. Et certaines tribus se sont dit que si elles se convertissaient, elles pourraient obtenir les armes des Blancs et puis massacrer comme ça leurs ennemis. Et alors, il a fallu un certain temps pour que les missionnaires se comprennent qu'ils étaient en train d'être manipulés par ces populations-là. En 1840, la Nouvelle-Zélande est devenue colonie anglaise et a été ensuite évangélisée d'une manière beaucoup plus mesurée par un certain Joseph Knopf, à partir de 1896, qui était d'ailleurs un juif qui s'était tourné vers Jésus. Et voilà, vous voyez en gros pour ce qui était de ces îles qui ont commencé à explorer d'une manière beaucoup plus systématique d'ailleurs à cette période-là. L'Asie mineure a été aussi l'objet de tentatives d'évangélisation, et en particulier le monde musulman. Ça, c'était beaucoup plus difficile. L'Indonésie avait un islam modéré, ce qui a fait que l'évangélisation de cette région était relativement facile. Mais quand on s'est attaqué à l'évangélisation de l'Empire ottoman proprement dit, ça a été extrêmement difficile. À cette époque-là, l'Empire ottoman était sur le déclin. D'ailleurs, dans les chancelleries occidentales, on parlait de l'Empire ottoman comme de l'homme malade de l'Europe. L'Empire ottoman était notamment gangréné par une dette, une situation économique dramatique, qui faisait qu'il ne pouvait plus s'opposer à l'arrivée des missionnaires européens. Mais, par contre, les populations locales refusaient de se convertir. On avait le droit d'évangéliser, mais le résultat était voisin de zéro. Pratiquement. C'est ce qui s'est passé en Turquie en 1831, où les missionnaires sont arrivés, en Asie mineure, en Arménie, qui était pourtant un royaume chrétien. Pareil pour l'Égypte, l'Éthiopie. En 1818, des missionnaires protestants sont arrivés en Éthiopie, qui était un pays chrétien, mais qui refusait le protestantisme. Il avait l'Église nationale, qui était absolument hostile. Et en 1862, Il y avait des missionnaires, mais qui faisaient pratiquement peu de choses là-bas, quoi. En 1862, donc, sous la pression des Coptes, des missionnaires sont arrivés en Syrie et au Liban. Et en 1813, les Américains ont ouvert une université à Beyrouth. Je rappelle que la mission était conçue à la fois comme un travail d'évangélisation, mais aussi un travail d'éducation. En 1811, des missionnaires sont arrivés en Iran. En 1800, les Anglicans ont ouvert un évêché à Jérusalem, avec la fameuse église du Christchurch, qui se trouve à Porte de Jaffa, qu'on a vu. C'était la première église de cette période-là. Le premier évêque qui a été nommé à cette période-là était un ancien rabbin qui se nommait Michael Salomon Alexander, qui a été évêque à Jérusalem entre 1842 et 1845, puis ensuite un Suisse, aussi juif converti, entre guillemets, lui a succédé, il s'appelait Samuel Gobat. Mais un des efforts les plus importants des missions protestantes du 19e siècle a été l'Afrique. L'Afrique, qui était à cette période-là, 19e siècle, pratiquement terra incognita, terre inconnue. Et l'évangélisation de l'Afrique a été quasiment de pair avec l'exploration du pays. Et les missionnaires ont souvent été des explorateurs, comme c'était le cas par exemple pour Livingstone, dont on aura l'occasion de parler. L'Afrique était connue depuis longtemps, mais essentiellement, l'influence européenne se limitait aux régions côtières. Pendant les siècles précédents, les 2 siècles qui avaient précédé, les Blancs s'étaient illustrés par le fameux commerce du bois d'ébène, c'est-à-dire le commerce des esclaves, qui se faisait d'ailleurs avec la complicité des chefs africains eux-mêmes. Il est de bon ton aujourd'hui de battre sa coulpe pour cet horrible commerce, et on a raison de le faire. C'est vrai que ça a été une des grandes tares des hommes blancs, et c'est certain que ça a considérablement freiné l'élan missionnaire. Ce passé esclavagiste des puissances occidentales. Mais il ne faut pas oublier que les Africains eux-mêmes ont été associés à ce commerce-là et que ça se faisait avec la complicité des chefs locaux qui vendaient leurs gens et qui y trouvaient intérêt. Donc, bon, ça, c'est un petit peu à relativiser. Alors, donc, il y avait des comptoirs qui étaient des comptoirs commerciaux essentiellement, non seulement le bois d'ébène d'ailleurs, mais aussi pour le café, enfin les épices, enfin tout ce qu'on pouvait trouver dans ces pays-là et qu'on ne trouvait pas dans les pays occidentaux. Donc, dès 1811, il y a eu évangélisation de ces régions qui étaient les plus proches des côtes. Là, le premier pays, la première région d'Afrique qui a été évangélisée au 19e siècle, à partir de 1811, ça a été le Sierra Leone. Là, ça a été extrêmement dur. Et en 20 ans, 50 missionnaires, hommes et femmes, sont morts. Morts de maladie, essentiellement. Alors, vous voyez tout à l'heure ce qu'on disait pour Adoniram Judson. Mais en fait, ça a été la première terre chrétienne, la première implantation chrétienne. Le sacrifice de ces hommes et de ces femmes n'a pas été vain, parce que ça a été une implantation importante de la mission dans ce pays-là. En 1851, le Ghana a été évangélisé. C'était aussi une région qui était proche des côtes. D'abord par la mission de Paris, c'est-à-dire les Français, puis ensuite la mission de Bâle, qui était suisse, à partir de 1851. Grâce aux missionnaires, la culture du cacao s'est développée dans ce pays-là, car les missionnaires avaient le souci de l'âme de ces gens-là, mais aussi de leur bien-être matériel. Non seulement ils développaient les services sanitaires et les services d'éducation, mais également, parfois aussi, l'économie, tout simplement. Ils l'ont appris à cultiver d'une manière correcte. Et grâce à cela, toute cette région est devenue la première importation de cacao du monde. Et les missionnaires ont fait de ces pays un pays riche, du Sierra Leone et du Ghana, des pays riches. Auriez-vous dire que les missionnaires n'ont apporté que l'exploitation, qu'ils ont été d'horribles colonialistes, c'est absolument faux. Même chose au Nigeria, qui était le pays le plus peuplé de l'Afrique occidentale, d'ailleurs de l'Afrique tout court, hein, mais qui était déjà très marqué par l'influence de l'islam. Les missionnaires au Nigeria se sont heurtés donc à l'islam pour la première fois. En 1851, les Anglais ont occupé Lagos Et des chrétiens du Sierra Leone sont venus prêter main forte aux missionnaires pour l'évangélisation du pays. En 1842, les anglicans, pardon, sont arrivés dans le pays avec un missionnaire qui se nomme Thompson, mais déjà les premières persécutions ont eu lieu et des chrétiens ont été massacrés par les musulmans. En 1838, c'est le pays voisin, le Niger, qui a été évangélisé, et notamment par des chrétiens noirs qui sont venus des Antilles, qui s'étaient eux-mêmes convertis et qui sont revenus dans le pays de leur père pour y apporter la bonne nouvelle. L'évangélisation de l'Afrique du Sud a aussi démarré à fond à cette période-là. Il y avait une présence chrétienne dans l'Afrique du Sud depuis le XVIIe siècle, depuis le milieu du XVIIe siècle, lorsque des Hollandais s'étaient emparés de la ville du Cap. Et à la fin du XVIIIe siècle, il y avait déjà 21 000 blancs dans toute cette région-là. On note à cette période-là aussi l'effort des Moraves pour évangéliser les Noirs, qui étaient un petit peu plus au nord. L'Afrique du Sud avait été ensuite le refuge d'un certain nombre d'Huguenots persécutés par le roi de France. Et de nombreux Français sont venus s'établir en Afrique du Sud. Par exemple, la famille de David Duplessis. Duplessis est un nom tout à fait français, n'est-ce pas? C'était des Huguenots qui ont fui la France à cette période-là. Et alors, chose extraordinaire, à cette époque-là, on n'avait pas la vision d'évangélisation des indigènes. Et ces Huguenots français, comme les Hollandais, n'ont pas eu l'idée d'évangéliser les Noirs. Ce sont les Moraves qui ont commencé à avoir ce souci. Au XIXe siècle, alors, a commencé l'évangélisation des Noirs d'Afrique du Sud. C'était encore l'impulsion des Moraves qui a été là, mais les Hollandais se sont opposés aux Moraves. Hein, c'était le début du racisme blanc qui a été l'appelé de l'Afrique du Sud jusqu'à il y a peu, n'est-ce pas, et qui a fait que les Hollandais se sont opposés à l'évangélisation des Noirs. En 1895, lors des guerres contre Napoléon, les Anglais ont pris le cap et donc ont établi une colonie dans cette région-là, et très vite, l'Afrique du Sud est devenue colonie britannique. Enfin, ça a été le début des troubles entre Blancs et Noirs, parce que les Anglais sont remontés au nord et ont aussi pris des régions qui étaient peuplées par les Noirs. Un médecin hollandais de cette période-là, s'appelait Van Damme, avait perdu sa famille d'ailleurs, aussi comme beaucoup de missionnaires, s'est consacré à évangéliser les Hottentots, les Bantous et les Pygmées qui habitaient un peu plus au nord. Et alors, tout effort à cette époque-là d'améliorer, si vous voulez, le niveau de vie des indigènes était considéré comme quelque chose de suspect par les Blancs. Les Blancs d'Afrique du Sud voyaient ça d'un très très mauvais œil. Et alors, ce Van Damme a fait une chose terrible à cette époque-là. Il s'est marié avec une Africaine. Ça, c'était abominable pour ces gens-là, de telle sorte qu'il a été désavoué par l'ensemble de la communauté chrétienne d'Afrique du Sud. Lui a succédé après sa mort, donc, John Philip, qui est arrivé en 1820 et qui est devenu à 44 ans superintendant des missions d'Afrique du Sud. Il a été sur le champ missionnaire pendant 33 ans. C'était un défenseur acharné des droits des Noirs contre l'apartheid des Blancs. Il croyait que les Noirs étaient les égaux des Blancs, n'est-ce pas? Et le travail de ce John Philip a été une des causes aussi de ce qu'on appelait la guerre des bourgs. N'est-ce pas? Les bourgs, la guerre des bourgs avait aussi des connotations racistes. Parmi les missionnaires d'Afrique du Sud, il faut citer aussi Robert Chauffat, qui a été un grand homme de Dieu, et qui a développé aussi le commerce dans toutes ces régions-là pour permettre à ces gens de vivre, ce qui a été une véritable bénédiction pour les Africains. Alors, à partir de cette période-là, les autres pays, on a commencé à s'enfoncer plus avant dans l'Afrique. La pénétration depuis l'Afrique du Sud vers le Nord a été la première exploration sérieuse, si vous voulez, de l'Afrique intérieure, n'est-ce pas? Mais le mouvement a été lancé. À partir de l'Éthiopie, par exemple, on a commencé aussi s'enfonçait beaucoup plus au sud, en direction de Zanzibar aussi, qui était une île, mais enfin qui était quand même relativement peu explorée jusqu'alors. À partir de 1838, 1844, Zanzibar a été évangélisé par un certain Franf, n'est-ce pas, qui est parti de l'Éthiopie, qui a été rejoint en 1824 par un certain Rebman, qui a atteint le Kenya et qui a découvert le Kilimandjaro. Et là, les missionnaires se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas les premiers dans la région, que les Arabes connaissaient fort bien ces régions-là et qu'ils y effectuaient des razzias pour y faire des esclaves. Et là, c'est tout à fait intéressant de noter que toute cette région de l'Afrique orientale, depuis le sud de l'Égypte, le Soudan, jusqu'à la région justement du Kenya, etc., l'Ouganda, était considérée comme une chasse gardée des marchands d'esclaves noirs. Les Arabes considéraient les Noirs comme aussi avec comme des sous-hommes, avec un racisme qui n'a pas cessé chez eux jusqu'à nos jours d'ailleurs. Et le sort des Noirs était d'être les esclaves des Arabes. Par conséquent, on venait se servir généreusement, n'est-ce pas, d'Arabes, de Noirs dans toutes ces régions-là. Alors évidemment, les missionnaires n'étaient pas du tout d'accord avec cette vision des choses. Et des clashs, des difficultés sont nés avec les marchands d'esclaves arabes qui ravageaient ces régions-là. Alors, c'est aussi dans la même période qu'a commencé l'évangélisation de la grande île de Madagascar, qui se trouvait donc au sud de l'Afrique orientale. Et cette épopée de l'évangélisation de Madagascar a eu pour promoteur un certain Thomas Philippe, qui était envoyé par la Société missionnaire de Londres. Thomas Philippe était un homme qui avait eu une vision, un peu comme l'avait eu l'apôtre Paul quand il avait eu la vision du Macédonien. C'était un petit peu quelque chose de semblable. Et il a vu un malgache qui l'appelait à l'aide, qui lui disait « Venez nous aider ». Lui-même était directeur de l'Institut de formation missionnaire du Pays de Galles, du sud du Pays de Galles. Et après avoir eu cette vision, il a fait un appel à ses étudiants. Il a dit « Voilà, j'ai eu cette vision, qui ira à Madagascar pour répondre à cet appel ?» Alors, se sont levés deux jeunes, qui s'appelaient l'un Philip Jones et le second Thomas Biwan, et ils ont décidé de répondre à cet appel. Ils n'étaient pas tout à fait les premiers. Déjà en 1897, un certain Van der Kempt, qui était un Hollandais, avait déjà eu contact un petit peu alors qu'il évangélisait les Hottentots. Et un certain Joël Lebrun, qui était originaire de Jersey, avait travaillé dans l'île Maurice, qui était une île voisine, parmi les esclaves malgaches en particulier, qui se trouvaient dans cette région-là. Et c'est donc en 1818, dans cette île Maurice, que partent David Jones et Thomas Biwan. Ils entendent de faire de l'île Maurice et donc des premières missions qui ont été installées là-bas par Joël Lebrun, la base de leur évangélisation en direction de Madagascar. En août de la même année, 1818, donc ils arrivent à Madagascar. Ils entendent y établir une école. Et là, Madame Jones et son bébé décèdent de la malaria. Air connu. Quelques mois plus tard, c'est la famille de Thomas Biwans qui décède elle aussi, avec Thomas Biwans lui-même. David Jones reste seul et il rentre un peu désespéré à Maurice. À Madagascar même, il a trouvé des traces d'une influence arabe. Il y a aussi des habitants qui viennent de la Malaisie, de la Polynésie. Et finalement, l'île sera conquise par les Français en 1896, mais à l'époque, elle est indépendante, bien entendu. Les Européens, néanmoins, les Anglais notamment, ont fourni des armes, des munitions à la population locale, ce qui a généré des nouveaux massacres. David Jones retourne à Madagascar le 8 décembre 1820 et il recommence le travail d'éducation. Il a une centaine d'élèves. Il est secondé l'année suivante par l'arrivée d'un certain David Griffith et puis d'un autre David Jones, qui n'est qu'un homonyme, n'est-ce pas, qui arrive lui prêter main-forte. En 1826, ils reçoivent d'Angleterre une presse qui leur permet d'imprimer des livres, notamment des grammaires et des livres de lecture de la langue locale qu'ils ont étudiée, et dans laquelle ils ont aussi commencé à imprimer des portions de l'Évangile. La Bible entière n'est pas encore traduite, mais ils ont déjà traduit des portions d'Évangile. Alors, les habitants sont réfractaires à l'Évangile, pour la même raison que les populations des îles du Pacifique, avec lesquelles ils ont des affinités raciales, liberté des mœurs, qui fait que l'Évangile ne passe pas du tout dans ces régions-là. Les missionnaires vont travailler pendant 16 ans sans résultat, pratiquement aucun, se bornant à faire un travail d'éducation. Et le 27 juin 1828, le roi meurt à l'âge de 36 ans. Et une des épouses du roi, qui se nomme Ramavalona, qui est à la tête d'un parti qui se qualifie lui-même de parti conservateur, prend le pouvoir. Elle fait un coup d'État. C'est une femme cruelle, qui est assoiffée de pouvoir, qui idolâtre son propre fils, et tous les autres membres de la famille royale sont mis à mort. La reine décide de chasser les missionnaires. Et alors, je produis une espèce de miracle, les missionnaires viennent de fabriquer sur place, avec des produits locaux, du savon. Alors il montre à la reine a été absolument séduite par le savon que fabriquent les Blancs. Et les missionnaires disent, mais si tu nous chasses, tu n'auras plus de savon. C'est l'argument qui porte. Comme la reine ne peut plus se passer de savon, eh bien elle autorise les missionnaires à rester. Et c'est ainsi que l'œuvre va se développer. Et le 29 décembre 1831, les premiers 20 baptêmes ont lieu en Madagascar. Enfin, le travail commence à porter. Parmi les convertis, un cousin du sorcier, qu'on va appeler pour cette raison Paul le Devin. Il prend un nom de baptême, il change ce nom, il se nomme Paul, et on va l'appeler Paul le Devin. Quand la reine apprend que 20 de ses sujets se sont fait baptiser, elle entre dans une colère noire, et elle interdit la pratique du baptême et de la Sainte Cène dans ses états. Puis ensuite, elle interdit aux esclaves d'apprendre à lire et à écrire, donc dans l'école qui a été créée par les missionnaires. Malgré cela, l'Évangile se répand. Un des missionnaires a une révélation, et cette révélation est celle-ci. Cette Église durera aussi longtemps que durera le monde. Ça les encourage considérablement. Mais il y a dans l'entourage de la reine, un des hauts fonctionnaires qui est un des ennemis les plus acharnés des chrétiens. C'est un déséquilibré et un fanatique qui amène 200 chrétiens à apostasier. Il va voir la reine en lui disant que les dieux lui ont demandé d'écraser cette secte et que les chrétiens doivent être éliminés. La reine est obsédée par la crainte que les chrétiens échappent à sa souveraineté. Ce n'est pas directement contre l'Évangile qu'elle en a, mais c'est contre le fait que les chrétiens ne soient pas des sujets fidèles. Et alors, elle décide de chasser les missionnaires. Les missionnaires, donc, organisent un dernier culte. Et là, c'est un petit peu le cri des huguenots au moment où ils ont... Les pasteurs ont fui la France, au moment de la révocation d'Édith Nantes, sauf Seigneur, nous périssons. Ils quittent l'île le cœur gros, se demandant est-ce que l'Église locale va pouvoir survivre. C'était la question. Heureusement, il y avait eu la révélation qui les encourageait. Or, effectivement, l'Église locale va survivre malgré le feu de l'épreuve. Le dimanche 1er mars 1835, 100 000 personnes sont rassemblées par la reine pour entendre une communication de cette dernière, à savoir que le christianisme est mis hors la loi sur l'île. L'apostasie est obligatoire sous peine de mort. De nombreux chrétiens, les jours suivants, se rendent au palais pour signer leur acte d'apostasie, mais la majorité des chrétiens restent fermes. Quelques missionnaires continuent à travailler donc dans les îles voisines, Maurice en particulier, pour terminer l'impression de la Bible. Et alors, l'Église passe dans la clandestinité. Des réunions secrètes se tiennent. Donc, la même année, la majorité des missionnaires quittent le pays. Seul reste David Jones, qui parvient à rester, pour terminer l'impression de la Bible et l'impression du voyage du pèlerin. Une année passe tranquillement, avec un accroissement considérable du nombre des chrétiens. En 1836, David Jones quitte définitivement l'île après avoir laissé 70 exemplaires de la Bible qu'il a réussi à terminer avant de quitter la Bible. Et avoir la Bible va être la bouée de sauvetage des chrétiens locaux. C'est un miracle d'avoir pu la traduire et imprimer en si peu de temps d'ailleurs. C'est un phénomène qui est sans équivalent dans l'histoire de la mission. Et après la persécution, plus de 1200 Nouveaux Testaments vont pouvoir être imprimés. Il y a une chrétienne qui, dans cette année-là, a pris le nom de Marie quand elle s'est fait baptiser, qui est dénoncée avec 9 autres chrétiens à la reine. La reine se contente de les mettre à l'amende. Et c'est alors que cette chrétienne va avoir un moment de faiblesse. Elle apostasie et elle donne le nom de cet autre chrétien, dont celui de Paul le devin. Ils sont tous arrêtés. Les biens de ces chrétiens sont confisqués. Et c'est alors que Marie se rend compte qu'elle a gravement fauté en livrant ses frères. Elle se rétracte. Elle est condamnée à mort. Et au moment où elle allait être mise à mort, la case dans laquelle elle était retenue prisonnière se met à flamber. L'origine de cet incendie n'a jamais été élucidée. Et Marie va pouvoir être sauvée. Par contre, une autre chrétienne, qui était une jeune fille très connue et très consacrée, et la première condamnée à mort, et la première exécutée le 4 août 1837. Puis, un autre chrétien, un jeune chrétien est mis à mort, un jeune homme de 27 ans. Certains fuient en Grande-Bretagne, dont Marie, justement. Paul le devin lui-même est exécuté. Et puis... à toutes les recherches. Et après la mort de la reine, il deviendra le pasteur de la plus grande église du pays. Il mourra en 1904 de sa belle mort, c'est-à-dire sans avoir été mis à mort. Donc, des centaines de chrétiens vont être ainsi pourchassés et mis à mort. La manière d'exécuter ces gens-là était assez cruelle, n'est-ce pas ? Ils étaient pendus au-dessus d'un précipice. Et pendant qu'ils agonisaient, on coupait la corde et ils allaient se fracasser quelques dizaines de mètres en bas, quoi. S'ils apostasiaient, on pouvait couper la corde, mais sur le sol ferme, et faire en sorte qu'ils soient sauvés. Après la grande persécution de 1849, 8 ans de répit vont avoir lieu et la mort de la reine met fin à la persécution. Un des principaux conseillers de la reine, nous avons vu, était un des plus grands persécuteurs. Mais le fils qui succède à la reine devient favorable aux chrétiens. La reine, avant sa mort, déjà avait un petit peu relâché la persécution parce qu'elle était âgée, elle était malade, mais sa haine était restée intacte. À la fin de sa vie, donc, elle est l'objet d'un complot dans lequel les chrétiens n'ont rien à voir. Mais elle croit que c'est les chrétiens qui l'ont voulu la détruire et à nouveau... 14 chrétiens sont lapidés, d'autres sont brûlés, d'autres sont à nouveau précipités dans les abîmes. Et c'est le 18 juillet 1861 que la reine meurt et son fils lui succède définitivement. C'est 200 chrétiens qui ont été mis à mort environ 200 chrétiens pendant la durée de son règne. Son fils accorde donc la liberté de culte et en 1861, un nouveau missionnaire donc revient à Madagascar. Il se nomme William Ellis. Et là, c'est le début donc d'une ère nouvelle pour l'île de Madagascar. Les journaux anglais commencent à s'intéresser à l'œuvre, et là, il va y avoir donc une grande liberté qui va être donnée à cette église, qui va pouvoir se développer. Et ça, c'est l'histoire, si vous voulez, du siècle suivant, de notre siècle. Alors. Le nombre des chrétiens a quadruplé pendant la persécution. Ça, c'est une chose tout à fait extraordinaire. Maintenant, les autres régions de l'Afrique vont être aussi évangélisées à cette période-là, puis aussi l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud va devenir un centre d'intérêt des chrétiens anglo-saxons en particulier, avec la fin des empires espagnols et portugais. Le 19e siècle va en effet la révolte des colonies espagnoles et portugaises en Amérique du Sud, et les empires de ces deux puissances vont se désintégrer, former un certain nombre d'États indépendants. Déjà, dans le nord du Brésil, des missions hollandaises et américaines avaient travaillé, ainsi que dans les îles des Antilles et l'Amérique centrale. Mais c'est au début du siècle qu'un certain Allen Gardiner va évangéliser le sud de l'Amérique, le sud du continent, la Patagonie et la Terre de Feu. C'est lui-même un ancien officier de marine qui a quitté la marine. Et il arrive là-bas donc pendant 6 ans, en 1850, avec un certain nombre de missionnaires. Ils meurent tous. Mais en 1862, le premier indigène de la Terre de Feu est baptisé. Et en 1858, les missions protestantes vont commencer à pénétrer en Amérique du Sud. C'est une date tournante pour l'évangélisation du continent. Les années 1858 à 1914, n'est-ce pas, sont les grandes années de l'évangélisation, de l'élan missionnaire. Il coïncide avec l'apogée du colonialisme anglais, ce qu'on appelle l'ère victorienne, parce qu'il va être marqué par le long règne de la reine Victoria d'Angleterre, qui est elle-même une chrétienne convaincue, chrétienne véritablement née de nouveau. L'ère victorienne a aujourd'hui, dans l'histoire générale, très mauvaise presse. Elle est considérée comme une ère puritaine, parce qu'effectivement, la reine Victoria était une reine très sérieuse, parce qu'elle était elle-même une chrétienne convaincue. Évidemment, dans une perspective évangélique et biblique, l'ère victorienne est plutôt quelque chose de positif. Nous considérons la reine Victoria elle-même comme une sœur en Christ. La reine Victoria, à cause de cela, va elle-même être très intéressée par les missions et favoriser l'essor des missions partout où les Anglais vont arriver. C'est l'époque où la guerre de Crimée s'achève, ou aussi s'achève la guerre de sécession, et puis l'unité de l'Italie. C'est pour situer un petit peu les choses au point de vue des événements de l'histoire générale. C'est aussi l'époque où Darwin publie son fameux bouquin L'origine des espèces, qui à l'époque a un peu d'influence. Ça passe pratiquement inaperçu. Il y a une assurance et une confiance des chrétiens européens, n'est-ce pas? Ils ont l'impression que bon, les choses sont tout à fait positives. Et en 1858 en particulier, la Chine va pouvoir s'ouvrir aussi à la diffusion du christianisme par l'intermédiaire de traités en particulier. Et là aussi, c'est un nouveau champ missionnaire qui va s'ouvrir devant les Européens à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, dans lequel va s'engouffrer un homme comme Hudson Taylor, qui est le plus grand nom de toute la mission, de tous les temps, si l'on peut dire, n'est-ce pas, mis à part l'apôtre Paul. 1851 aussi, c'est le moment où s'ouvre le Japon. Le Japon qui a été rétabli dans ce qu'on appelle l'ère de Meiji. Les shoguns ont pris le pouvoir et le Japon va s'ouvrir à l'influence occidentale. Jusqu'alors, le Japon était resté très fermé. Et puis soudain, les shoguns ont pris conscience que si le Japon veut décoller et avoir un rôle à jouer sur la scène de l'histoire, il faut qu'il s'ouvre à l'influence occidentale. Alors, il y a une influence occidentale très contrôlée qui s'ouvre pour le Japon. Et dès 1859, des missionnaires européens, des missionnaires américains plus exactement, peuvent arriver au Japon. L'évangélisation est très difficile. Les Japonais sont un peuple qui n'est pas très religieux, finalement, même s'ils ont une religion locale très, très particulière, et ne sont pas intéressés tellement à l'évangile. Et en même temps, ils y sont très hostiles. Et de toutes petites communautés vont être créées par les missionnaires américains. Le caractère japonais est très individualiste, de telle sorte que ce n'est qu'en 1871 que 95 étudiants d'une école qui a été créée par les missionnaires se convertissent. Ce sont les premiers convertis qui se convertissent au Japon. 8 jours après, à Kobe, une des grandes villes japonaises, éclate un réveil dans une école aussi, et 200 étudiants sont baptisés. La puissance du Saint-Esprit est telle qu'il faut arrêter les cours, et pendant plusieurs jours, on passe le temps à prier. Le premier pasteur japonais de cette période-là, qui se nomme Michura, se rend en Amérique en 1864, illégalement d'ailleurs, pour se former, pour devenir évangéliste dans son propre pays. Il revient en 1814 et il mourra en 1890. Il fonde la première église proprement japonaise. Et entre 1882 et 1945, il y aura 5000 convertis au Japon. Ce n'est pas énorme, hein, pour un travail de 145 missionnaires. Et en 1951, il y aura 26 000 chrétiens au Japon. À cette période-là, très vite, les Japonais veulent une église indigène. Ils veulent voler de leurs propres ailes. Et aujourd'hui, l'église japonaise est peu nombreuse. Il y a peu de chrétiens, véritablement, mais ils sont en général assez influents. Et là maintenant, il faut que nous abordions la plus extraordinaire de toutes les épopées missionnaires du 19e siècle, peut-être celle de tous les temps, l'histoire du Hudson Taylor. Hudson Taylor est l'histoire de l'évangélisation, la mission à l'intérieur de la Chine, n'est-ce pas, qui est la chanson de geste, si l'on peut dire, de l'épopée missionnaire. Ça, on va peut-être l'aborder la prochaine fois, si vous voulez, pour laisser intact le sujet. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser sur cette épopée missionnaire ?